Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue au Festival de Rocamadour pour un nouveau rendez-vous avec un des musiciens programmés lors de cette édition 2021. Ce soir, moment très important avec le premier des concerts donnés en plein air dans la prairie au pied de la cité illuminée. Il commence à 21h30 et il est donné par le Concert de la Loge qui va jouer un tube parmi les tubes de la musique dite classique, les très célèbres 4 saisons de Vivaldi. J'ai le plaisir d'interviewer le violoniste Julien Chauvin, directeur artistique du Concert de la Loge, une formation qu'il a fondée en 2015. Bonjour Julien Chauvin et merci de nous accorder cet entretien sur Radio Présence. On va parler bien sûr avec vous du Concert de la Loge et de Vivaldi, mais avant cela, je voudrais qu'on fasse mieux connaissance avec vous, parce que bien qu'étant encore jeune, vous avez déjà derrière vous une carrière très riche, et vous faites partie de ces musiciens qui se sont très tôt spécialisés dans l'interprétation sur instruments anciens. Pourquoi vous êtes engagé très tôt dans cette voie? Est-ce que c'est pour les sonorités, pour l'aspect recherche historique, et peut-être aussi parce que le baroque était en plein renouveau dans les années 90, ce qui pouvait attirer le jeune musicien que vous étiez à l'époque?
Oui, la question des instruments anciens, elle est en effet très importante dans mon parcours. Mon parcours musical, il a été au début, quand j'étais assez jeune, jalonné par un enseignement relativement traditionnel, du violon qu'on pourrait appeler moderne. Et puis, quand j'ai eu 15 ans, j'ai en effet découvert des sonorités, notamment des musiciens qui jouaient sur des cordons boyaux, enfin, et des répertoires du 17e et du 18e siècle. Et j'ai entendu des voix qui étaient utilisées un peu différemment que d'habitude, dans d'autres répertoires aussi. Et j'ai eu vraiment, j'ai ressenti un besoin d'aller plus profondément dans cette approche. Et donc petit à petit, je me suis rapproché en achetant un violon baroque, en achetant un archet baroque. Et tout ça a fait que j'ai poursuivi une voie, notamment en partant étudier aux Pays-Bas. J'habitais à La Haye pendant 5 ans et j'avais mes cours à Amsterdam. Et c'est vrai que je me suis baigné totalement, imprégné du répertoire baroque. Ça a changé beaucoup de choses dans mon parcours, jusqu'à décider de vraiment m'y attacher complètement et à ne faire que ça.
Quelles furent vos références et même vos influences à l'époque, influences qui doivent encore, je suppose, perdurer aujourd'hui?
Oui, à l'époque, je me souviens très bien d'écouter en boucle des disques de Fabio Biondi, par exemple. J'étais fasciné par son jeu, par la sonorité, par sa capacité d'improviser. Une des choses qui m'a le plus fasciné au début, c'est que quand je regardais une partition, quand je suivais une partition d'un enregistrement, en fait, je comprenais plus la partition, je retrouvais plus la partition parce qu'il y avait tellement de notes ajoutées, des ornements, que c'était assez déroutant et en même temps, ça paraissait totalement naturel. Et donc, cette pratique de l'ornementation, c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a vraiment séduit et donc c'est une voie que j'ai voulu suivre.
Voilà donc pour votre formation de musicien, de violoniste. Et puis dès 2005, à l'âge de 26 ans, vous cofondez avec Jeremy Rohrer le Cercle de l'Harmonie, une formation que vous allez diriger avec lui pendant 10 ans. Donc très tôt aussi, vous avez eu envie d'avoir votre formation et de diriger la musique que vous aviez envie de jouer comme vous aviez envie qu'elle soit jouée.
Oui, quand je suis rentré dans les études justement en 2005, j'avais comme point de mire de rassembler autour de moi des musiciens que j'avais rencontrés au cours de mes études. Donc là, c'était un centre absolument international. Donc j'ai rencontré des musiciens australiens, anglais, allemands, américains, japonais, belges, espagnols. Et c'est vrai que j'ai eu envie de les réunir et de former un orchestre pour servir en priorité le répertoire classique, qui est un répertoire qui était malgré tout relativement peu servi sur instruments anciens. Beaucoup d'ensembles baroques dans les années 2000, mais relativement peu d'orchestres qui se spécialisaient dans le répertoire classique. Et donc, l'année où je suis rentré de mes études, on a pu commencer cette aventure avec ces répertoires en particulier.
Quelles étaient les œuvres et les compositeurs que vous mettiez en avant en fondant cet ensemble?
C'était clairement le répertoire mozartien, Jean Chrétien Bach, Haydn, Beethoven. C'était vraiment le cœur du répertoire.
Le répertoire classique de la période classique, voilà. Vraiment classique.
Absolument, absolument.
Et 10 ans plus tard, en 2015, vous fondez le Concert de la Loge, qui s'appelait au départ le Concert de la Loge Olympique, en référence à la société de concert qui œuvrait à Paris entre la fin du 18e et le début du 19e. Quel était votre objectif, votre ambition en vous lançant dans cette nouvelle aventure?
Alors, cette nouvelle aventure, c'est une référence, vous le disiez, à un orchestre qui avait été créé en 1781 à Paris. Et cet orchestre, il mêlait un tas de musiciens professionnels qui étaient aussi compositeurs, qui étaient aussi graveurs de partitions, qui étaient aussi éditeurs, qui étaient évidemment professeurs et qui faisaient partie d'autres orchestres de la capitale, notamment de l'Académie royale de musique, l'Opéra. Et cet orchestre a une vie assez foisonnante. Il commande des œuvres à des compositeurs comme Salieri, comme Haydn. Haydn va composer plus de 9 symphonies, dont les 6 symphonies parisiennes, pour le concert de la Loge Olympique. Et puis, voilà, déterrer cet orchestre et la vie de cet orchestre à la fin du 18e me permettait de justifier énormément d'activités, d'enregistrements qu'on a réalisés depuis 2015 jusqu'en 2020, des enregistrements dédiés à Haydn et notamment à tout ce répertoire parisien de compositeurs qui étaient joués dans ces années-là, qui composaient des oratorios, des symphonies concertantes. Et ça nous a permis de relever à la fois ce nom et puis tout un répertoire, notamment le répertoire classique français qui a été vraiment mis de côté. Donc c'était vraiment déterrer des trésors les uns après les autres. Des compositeurs comme Rigel, comme Guénin, comme Chartrain, comme Johann Christian Bach aussi, bien sûr, comme Sarti, et bien sûr Haydn, qui était considéré comme le grand génie de cette fin du XVIIIe siècle.
Et là, on retrouve l'aspect recherche historique que j'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais de votre première formation de musicien et de votre choix de vous diriger vers la musique sur instrument ancien. Alors, vous avez une autre particularité, une de plus, c'est que vous dirigez votre formation de votre violon. C'est-à-dire que vous donnez à la fois des indications, vous jouez bien sûr, mais vous donnez à la fois des indications à vos partenaires. Est-ce que c'était quelque chose de courant à la fin du XVIIIe siècle ?
Alors, au cours du XVIIIe siècle, comment sont dirigés les orchestres ? Ils le sont soit du clavier par un claveciniste qui est face à l'orchestre, soit par le premier violon. Et bien sûr, le claveciniste ou le claviériste pouvait être bien sûr aussi secondé par le premier violon. Mais le premier violon, de par sa position géographique dans l'orchestre et de par son rôle, évidemment, il est tout à fait amené à pouvoir diriger l'orchestre. Parce que le rôle du chef d'orchestre et l'apparition du chef d'orchestre en tant que tel, c'est-à-dire une personne qui est debout, sans instrument qui sonne, avec juste un bout de bois, ça, ce chef d'orchestre, dans cette forme-là, il n'arrive que relativement tard, dans la première moitié du 19e siècle. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ou à ne pas le savoir. Alors, c'est pas vraiment pour faire comme au 18e que j'ai fait ça, mais c'est parce que j'adore jouer quand même, et puis parce que c'est pas tout à fait la même ambiance, c'est pas tout à fait le même esprit, parce que jouer en dirigeant, c'est bien sûr contrôler un discours musical, mais c'est jouer en même temps, donc je peux pas non plus tout contrôler. Et donc, ça oblige tous les musiciens, que ce soit les violoncellistes, les oboïstes, les cornistes, à être du coup beaucoup plus moteurs, à être beaucoup plus indépendants, à être meneurs aussi de chacune de leurs parties.
Ouais, ça responsabilise tout le monde.
Voilà, ça responsabilise tout le monde et c'est autre chose, c'est pas mieux, vraiment, je dirais absolument pas que c'est mieux, parce qu'il y a des programmes que je dirige de la baguette aussi. Et c'est aussi un très très grand plaisir de pouvoir diriger et de ne pas avoir d'instrument en main. Mais je pense qu'ils peuvent coexister, et même au sein d'un même orchestre, mais tant que les formes ne sont pas trop importantes, c'est-à-dire que c'est pas de l'opéra, forcément avec mise en scène, des chanteurs très loin, un orchestre dans la fosse, tant qu'il n'y a pas trop de complexité dans l'écriture des œuvres, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à jouer tout en dirigeant.
Alors, il y a une autre caractéristique du concert de la Loge. On dit que vous proposez des formats de concert où votre ensemble interagit avec le public, où le public est impliqué, fait partie intégrante du concert. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors, c'est des grands mots, mais en fait, ça veut juste dire qu'il me semble que de nos jours, pour un certain répertoire, notamment le répertoire classique, de symphonie, de concerto, d'une part, il me semble important que l'artiste prenne la parole, c'est-à-dire puisse présenter son programme, présenter les œuvres au public. C'est-à-dire que, bien sûr, dans plein d'endroits, on a un programme de concert, mais combien de personnes lisent le programme avant que les lumières s'éteignent ? Je pense pas qu'il y ait un si grand pourcentage. Bien sûr, il y a des gens qui vont lire le programme à la virgule près, mais souvent, les gens, quand même, viennent au concert. Ils ont vu le programme ou ils ont vu les interprètes. Et il me semble très important à ce moment-là que l'interprète, l'artiste prenne la parole et puisse présenter le programme. D'une autre facette, c'est vrai qu'on a fait tout un cycle de symphonies de Haydn. Et les symphonies de Haydn, il en a écrit 105. Parfois, on peut être un peu perdu dans son œuvre gigantesque. Et des titres ont été donnés à ces symphonies. Toujours par le public, par les éditeurs, par des musiciens, jamais par Haydn lui-même. Mais ces titres, en fait, qu'est-ce qu'ils symbolisent ? Ils symbolisent qu'ils attachent une image, une histoire à une œuvre. Et pour l'œuvre de Haydn, il me semble très important de décoincer l'imagination, l'imaginaire du public. C'est-à-dire que si on donne 2-3 clés sur l'œuvre qui va être jouée, et si on demande au public ou aux auditeurs d'être attentifs, d'être actifs dans le sens où, quand ils vont entendre un passage, que ce soit pianissimo, que ce soit fortissimo, ou tous les ensembles jouent ensemble, ou alors tous les ensembles se répondent, en fait, de créer une non-passivité de l'écoute. C'est-à-dire qu'ils puissent se créer un imaginaire et surtout se créer une histoire. Alors ça, c'est vraiment valable pour des œuvres symphoniques instrumentales du répertoire classique. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, et notamment, on a fait de très nombreux concours de titres, par exemple, pour des symphonies de Haydn, qui n'en avaient pas. Et on a eu un nombre de participations très important, des gens qui se sont prêtés au jeu, de donner des pieds, de raconter des histoires. Parce qu'on s'est aussi rendu compte, à travers des lettres et des documents, des témoignages de Haydn, qu'il concevait la musique comme ça. C'est-à-dire qu'il n'écrivait pas une musique stérile. C'est pas parce que la symphonie, l'œuvre instrumentale, elle n'a pas de mots, comme un opéra ou comme un oratorio. Elle n'a pas de mots, mais elle transmet quand même une théâtralité. Et c'est cette théâtralité que je souhaite révéler, ou en tout cas, je souhaite pousser l'auditeur à s'en inventer une théâtralité. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a fait des concours de titres, puisque dans notre intégrale des symphonies parisiennes de Joseph Haydn, il y a 6 symphonies, dont la reine, la poule et l'ours, et puis il y a 3 autres symphonies qui n'avaient pas de titre. Et donc on a lancé un grand concours de titres à chaque fois qu'on jouait l'œuvre. Donc on a récupéré des centaines de propositions de titres, et quand on a enregistré ces symphonies, on a mis sur le disque les titres qui avaient été trouvés, qu'on avait sélectionnés et trouvés par le public. Voilà, en tout cas, ce qu'on essaye de faire.
Alors, on en vient à ce concert du 24 août dans la prairie au pied de la cité de Rocamadour qui va être entièrement consacré aux 4 saisons de Vivaldi, ce qui va nous donner l'occasion de parler de ce compositeur qui compte manifestement beaucoup pour vous. Nous allons d'abord nous mettre dans l'ambiance, si je puis dire, en vous écoutant avec vos camarades du concert de la loge dans une interprétation d'un extrait du 2e mouvement du concerto pour violon RV387 d'Antonio Vivaldi. le deuxième mouvement du concerto pour violon RV-387 d'Antonio Vivaldi, interprété par Julien Chauvin et le concert de la Loge. Vivaldi, un compositeur que vous jouez souvent et que vous semblez beaucoup apprécier donc, est-ce que c'est entre autres parce que malgré sa célébrité, son œuvre reste finalement en grande partie méconnue et même sous-estimée en raison de l'ombre que peuvent lui faire ses contemporains Bach et Handel?
Alors, je dirais pas que je joue ou qu'on joue Vivaldi parce que son œuvre est méconnue et sous-estimée. C'est sûr qu'on s'emploie à jouer des œuvres, des concertos, des opéras relativement peu connus parce que, comme vous disiez, en dehors des sentiers tracés, c'est un peu comme à Venise, hein. On a tous été touristes, j'espère, à Venise. On a tous pris les chemins que prennent tout le monde, les allées bien définies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de s'échapper de ces grandes artères. Et de pouvoir découvrir des choses nouvelles. Et c'est un peu notre idée avec Vivaldi. Cette année, on joue les 4 saisons, qui est une œuvre ultra, ultra jouée, ultra connue, ultra enregistrée. Mais à côté, on joue des œuvres qui le sont beaucoup moins, comme un concerto pour basson, pour violoncelle ou pour flûte. Et pour moi, c'est vrai que la musique de Vivaldi, elle n'est qu'optimisme, elle n'est que sourire, elle est d'une très grande aide psychologique.
Oui.
Pour tous les auditeurs, alors qui peut être très changeante, qui peut avoir des tonalités vraiment et des couleurs extrêmement variées, mais qui reste toujours avec une humeur très positive et très attachante.
Alors, Vivaldi, on entend souvent dire « c'est joli, mais c'est un peu toujours la même chose et ça n'atteint jamais le génie d'un Bach ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous venez un peu de répondre d'ailleurs.
Je dirais que, d'une part, il ne doit pas y avoir de concurrence entre les compositeurs. Je pense que la musique de Bach, elle est exceptionnelle. Évidemment, qu'on écoute une cantate, une suite pour violoncelle, une messe ou une passion, il y a quelque chose vraiment dans une musique d'exceptionnel, de parfait. Pour Vivaldi, qui avait une grande connaissance des différents styles, hein, d'ailleurs, qui avaient cours en Europe, Vivaldi, il a son caractère, il a ses qualités, ses défauts en effet, parce que quand on compose énormément, oui, et bien sûr, il y a toujours un risque de se répéter, mais Bach se plagiait lui-même énormément, et Vivaldi s'est aussi plagié comme tout le monde, mais dans notre position d'interprète, on doit justement révéler à chaque fois ce qu'il y a de nouveau. Et ce qui est fabuleux avec les concertos pour violon, il en a écrit plus de 110, c'est que chaque partition, on doit la voir avec des yeux vraiment ouverts et vierges. Et on doit en faire ressortir chacune des articulations, des nouveautés, parce que il écrit pour violon d'une manière tellement virtuose que c'est ça qu'on doit révéler, les nouveautés qu'il inventait à chaque fois qu'il écrivait pour le violon.
Alors vous allez donc jouer ce soir les 4 saisons, qui sont en fait un cycle de 4 concertos pour violon. Une des œuvres de la musique dite classique, de la musique savante, les plus connues du grand public. Est-ce qu'il est vraiment possible aujourd'hui, si ce n'est de faire redécouvrir cette œuvre, tout du moins d'en montrer des aspects, des nuances qui ne sont pas toujours mises en valeur?
Il est vrai que c'est vraiment très difficile de jouer cette œuvre par le poids des enregistrements, par le poids, j'allais dire, du fantasme qu'il y a autour de cette œuvre, parce que cette œuvre, elle n'est pas seulement jouée en concert, elle est sur les téléphones portables, elle est dans les ascenseurs. Et ça, c'est connoté, évidemment, c'est bien. Mais c'est connoté aussi de manière un peu péjorative. Oui, on connaît, mais bon, c'est répété, donc ça va, on n'a plus envie d'entendre ça. Mais ces 4 saisons, évidemment, qu'à chaque fois qu'on les joue, on découvre quand même quelque chose qu'on a envie de faire ressortir. Et évidemment, le texte, le poème qui est associé aux 4 saisons, on peut toujours le relire différemment, on peut toujours l'interpréter différemment. Et je pense que avec tous les musiciens qui jouent cette œuvre, on leur approche, bien sûr, on leur approche de comment le ruisseau doit sonner, comment le bruit des gouttes de pluie qui tombent sur le toit, la manière dont ça doit sonner, le chien aboie et tout ça. Il y aura toujours une approche personnelle de cette œuvre, et c'est ça qui est fascinant. Mais ça reste, en plus d'une œuvre très exigeante au niveau instrumental, ça reste un défi.
On va écouter un autre extrait du concerto pour violon RV-387 d'Antonio Vivaldi, toujours interprété bien sûr par Julien Chauvin et le concert de la Loge. Thank you. Second extrait du concerto pour violon Hervé 387 de Vivaldi, interprété par Julien Chauvin, et le concert de la loge. Dernière question, je suppose que comme la plupart des musiciens, vous êtes sensible aux lieux et aux circonstances dans lesquelles vous jouez. Le fait de vous produire en plein air, à la nuit tombée, devant plus de 1500 personnes, dans ce décor incroyable de la cité de Rocamadour illuminée, est-ce que c'est quelque chose qui peut complètement modifier, voire transcender une interprétation, quand bien même il s'agirait d'une œuvre que vous avez très souvent jouée en public ?
Alors, c'est toujours, pour nous qui voyageons énormément, arriver dans un lieu, c'est toujours un moment très émouvant, découvrir la sonorité, et la sonorité, on la découvre en général l'après-midi. Or, l'après-midi, l'acoustique, si on parle d'acoustique par exemple, va être toujours extrêmement différente l'après-midi ou le soir. Alors, savoir pourquoi, il y a toujours une différence avec le public, sans le public. Et là, évidemment, dans le cadre qu'on va découvrir à Rocamadour, qui est connu au-delà des frontières, évidemment, ça va jouer sur la manière dont on va projeter le son, la manière sur certains tempi. On n'utilise pas la même rapidité, les mêmes tempi dans une église qui résonne énormément ou en plein air. Et donc, ça va être vraiment un ajustage toute l'après-midi de répétition, mais aussi au cours du concert. Parce que c'est notre métier de nous adapter aux conditions. Alors j'espère que, voilà, évidemment qu'il fera beau, qu'il ne fera pas trop humide, mais j'ai l'impression que la fin de l'été s'annonce plutôt chaude.
A priori, c'était là qu'il fallait faire le concert, et surtout pas en juillet ni début août.
Voilà, mais tant mieux.
Écoutez, merci infiniment Julien Chauvin. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous, c'était passionnant. Je rappelle que vous donnez avec vos camarades du Concert de la Loge des 4 saisons de Vivaldi ce mardi 24 août à partir de 21h30 dans la prairie, au pied de la cité de Rocamadour. Passe sanitaire obligatoire bien sûr. Le détail de la programmation du festival, l'achat et la réservation des places sont disponibles en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Merci de votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi à l'écoute de Radio Présence.